Vous écoutez RFI, il est midi à Paris, 11h en temps universel. Le journal présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Dans l'actualité, l'heure de vérité pour François Bayrou. C'est aujourd'hui que le Premier ministre français engage la responsabilité de son gouvernement sur le vote du budget de l'État et sur celui du budget de la Sécurité sociale. Comme pour Michel Barnier, il y a quelques semaines, François Bayrou s'expose à un vote de censure au Parlement à suivre dès le début du journal. En Allemagne, à 20 jours des élections législatives, les démocrates chrétiens sont donnés favoris. Ils tiennent un congrès à partir d'aujourd'hui. Le parti conservateur est divisé sur la conduite à tenir à l'égard de l'extrême droite. Face à la menace de guerre commerciale, Donald Trump calme le jeu. Le président américain s'entretient aujourd'hui avec le Canada et avec le Mexique au sujet des droits de douane qu'il a imposés à ces pays. En ce début de semaine, les choses s'accélèrent en vue de faire adopter le budget 2025 en France. Le Premier ministre François Bayrou a fait savoir ce week-end qu'il avait décidé de déclencher l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet de loi de finances ainsi que le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Charlotte Urien-Tomaca, bonjour.
Bonjour.
Comment les choses vont-elles se dérouler ?
Eh bien, les députés doivent d'abord examiner à partir de 16h le texte de compromis sur le budget dont a accouché vendredi une commission mixte paritaire réunissant à huis clos 14 parlementaires des deux chambres. L'ensemble des députés d'opposition ont voté contre le texte en CMP, ne laissant guère d'autre choix au Premier ministre que d'engager donc la responsabilité du gouvernement en l'absence de majorité à l'Assemblée. Le Premier ministre devrait enchaîner rapidement, peut-être même dès lundi soir, avec un deuxième article 49.3 sur le budget de la Sécurité sociale qui arrive dès lundi soir dans l'hémicycle.
Et donc, il pourrait y avoir deux motions de censure cette semaine.
Oui, car la France insoumise l'a annoncé. Ils déposeront, dans la foulée du déclenchement de chaque 49.3 par le Premier ministre, une motion de censure. En censurant le gouvernement de Michel Barnier le 4 décembre, les députés ont rejeté le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2025, pourtant issu d'un compromis entre les deux chambres. Après la censure, les sénateurs sont donc repartis du texte initial du gouvernement précédent et l'ont amendé avant de renvoyer à nouveau ce projet de loi sur les bancs de l'Assemblée. Il y sera donc examiné dès aujourd'hui, alourdi de plus de 1500 amendements déposés par les députés. Et ce week-end, le Premier ministre a annoncé qu'il utiliserait bien l'article 49.3 pour faire passer le texte également. Donc une deuxième motion de censure est donc à prévoir.
On l'a compris Charlotte, c'est donc une semaine à haut risque pour le Premier ministre.
Oui, car comme je viens de vous l'expliquer, qui dit 49.3 dit motion de censure. Et étant donné la configuration de l'Assemblée, le Premier ministre, pour ne pas être censuré, doit absolument faire en sorte de trouver un accord, soit avec les socialistes, soit avec le RN. Et alors qu'il est, on ne sait pas ce que ces deux partis décideront sur la motion de censure. Là où les censures donc devraient être examinées mercredi. Et deux rendez-vous décisifs ont lieu aujourd'hui. Le bureau national du PS, qui a député il y a quelques minutes à midi, et qui pourrait acter la censure ou non. La décision ne devrait néanmoins pas être communiquée avant mercredi. Et puis il y a aussi la réunion du groupe RN aujourd'hui à l'Assemblée à 15h.
Charlotte Urien-Tomaca du service politique, merci à vous. Et puis toujours dans l'actualité politique, une élection municipale s'est tenue à Villeneuve-Saint-Georges dans la grande banlieue sud de Paris. Scrutin considéré comme un test pour LFI, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Il a été remporté par la candidate du parti de droite, Les Républicains, alors que l'insoumis Louis Boyard semblait bien placé. On vote aussi en Allemagne, où les chrétiens démocrates sont réunis aujourd'hui pour seulement quelques heures en congrès, et ce à 3 semaines des élections générales. La CDU, donnée favorite par les sondages, compte faire adopter un programme de mesures à mettre en place immédiatement. Pascal Thibault, bonjour, vous êtes en direct de Berlin. Cette grand-messe s'est perturbée par les violentes polémiques contre le vote d'une motion de sens d'une motion des chrétiens démocrates. C'était Pascal la semaine dernière au Parlement avec les voix de l'extrême droite.
Oui, tout à fait. Et on a vu que après les manifestations qui ont eu lieu durant tout le week-end à travers l'Allemagne contre ce positionnement de la CDU, et bien ici même devant les portes du Congrès, il y avait des protestations. Il y a eu 3 ou 4 contrôles pour tous les participants avant même de pouvoir accéder au bâtiment où se tient le Congrès. L'objectif aujourd'hui, eh bien, c'est d'être unis dans l'adversité lors de ce Congrès de quelques heures à 3 semaines des élections. Le président de la CDU et candidat à la chancellerie Friedrich Merz reste droit dans ses bottes. Il rejette toute alliance avec l'AfD. Il ne regrette pas le vote en commun la semaine dernière au Parlement avec le parti d'extrême droite, malgré les très nombreuses critiques, dont celle de l'ex-chancelière Angela Merkel. Les attaques en règle sont nombreuses, notamment celles de la gauche. Mais Friedrich Merz et la CDU estiment, et c'est ce que montrent aussi les sondages, qu'ils ont une majorité d'Allemands derrière eux pour soutenir ces positions dures sur l'immigration, des positions qui étaient contenues dans les textes déposés la semaine dernière au Parlement, qui vont être reprises aujourd'hui dans un programme en 15 points, un programme à appliquer en cas de victoire après le 23 février.
Merci, c'était Pascal Thibault en direct de Berlin. L'Allemagne a 3 semaines des élections et à l'heure de ce congrès de la CDU, un invité pour en parler tout à l'heure dans RFI Midi vers 13h20, ce sera le politologue Stéphane Zehdendorf. Les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump au Mexique et au Canada vont accroître l'incertitude économique. C'est la position défendue ce matin sur France Info par le gouverneur de la Banque de France. Décision très préoccupante, a-t-il estimé. C'est demain qu'entreront en vigueur des droits de douane de 25% sur les importations en provenance des deux grands voisins des États-Unis. Donald Trump a fait savoir qu'il s'entretiendrait ce lundi avec le Premier ministre canadien et avec la présidente du Mexique. La 67e cérémonie des Grammy Awards, l'équivalent des Oscars de la musique, s'est tenue hier soir à Los Angeles. Elle a été marquée par le triomphe de Beyoncé. La chanteuse, au talent multiple, a décroché 3 Grammy, dont celui du meilleur album de l'année. La cérémonie s'est ouverte par un hommage aux victimes des incendies de Los Angeles il y a quelques semaines et un appel aux dons. Après Notre-Dame de Paris et depuis hier, c'est au tour de Notre-Dame de la Garde à Marseille de se refaire une beauté. Les travaux de restauration s'étaleront jusqu'au 8 décembre prochain. La basilique qui surplombe le Vieux-Port attire les touristes venus de toute la France et même bien au-delà. Marseille fait figure de nouvelle destination phare. Le magazine américain Condé Nast Traveler l'a classé dans les 25 plus beaux endroits du monde à visiter. Reportage de notre correspondante Siam Spencer.
À l'horizon, la mer qui ondule et si on tourne à peine la tête, c'est toute la ville de Marseille qu'on découvre.
Nous sommes au pied de la tour de Notre-Dame de la Garde.
Xavier David est architecte en charge des travaux de la fameuse basilique marseillaise. Au sommet, une statue de la Vierge dont il faut refaire la dorure tous les 30 ans.
La dernière dorure date de 1989. Il est temps de refaire la dorure. Il y aura un délicat travail de préparation, enlever la vieille feuille d'or, retrouver le cuivre original qui est dessous, et ensuite on pourra appliquer une nouvelle feuille d'or.
Pour ces travaux, plus €1 million ont été récoltés car la bonne mère, comme on l'appelle ici, intéresse de plus en plus.
Il y a 20 ans, il y avait 500 000 visiteurs. Il y a 10 ans, il y en avait 1 million. Aujourd'hui, on a dépassé 2 millions de visiteurs. C'est énorme pour une petite église au sommet d'une petite colline.
Et pour preuve, en quelques minutes, on croise des touristes du monde entier. Ici, à commencer par Baptiste, venu de Belgique.
Là, on découvre cette magnifique cathédrale. Très belle couleur à l'extérieur et à l'intérieur. Cet effet avec les arches superposées, j'ai trouvé ça très chouette.
Mais au-delà de la bonne mer, Baptiste est plutôt séduit par la ville de Marseille.
Une partie un peu artistique, une partie un peu plus village de mer, et une partie plus parisienne un peu. Surtout, c'est génial parce que c'est le sud accessible en termes de prix, mais aussi en termes de pratique. C'est une grande ville où on peut venir d'un peu partout, on peut facilement y accéder.
Hors d'Europe, ce sont les Américains qui sont les plus nombreux à visiter Marseille, comme David, venu avec sa femme et sa petite-fille depuis l'Indiana.
C'est notre première fois à Marseille et c'est vraiment magique. On a pu faire plusieurs sites touristiques, se balader et découvrir la ville. C'est à couper le souffle. Une des plus belles villes du monde.
Mais le nouveau booster du tourisme à Marseille, ce sont ce genre de vidéos.
Mon top 3 des lieux qui vont te donner une autre image de Marseille. En premier, il y a le Vallon des Offs, un petit port dans le 7e arrondissement. Il est super mignon.
L'impact des réseaux sociaux est considérable. Hein.
Marc Thépeau, président de l'Office de tourisme de Marseille.
Sur différents sites, il y a un nombre de vues de plus en plus important. Bon, ben, tout ça, ça vous donne envie d'aller voir ces quartiers, ces vies, ces accents. Bien sûr, les classiques, c'est toujours Château d'If, Notre-Dame de la Garde. Mais il y a aussi le Corbusier, il y a bien sûr les Calanques, le bord de mer, la Corniche, etc. C'est quand même une ville diverse qui accepte tout le monde et qui correspond effectivement à ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est-à-dire une expérience, et je crois que chacun y trouve son compte.
Sans parler de la météo qui fait partie des points forts de la ville avec ses 2965 heures d'ensoleillement en 2024.
Reportage de Siam Spencer, notre correspondante à Marseille. Voilà un mot de tennis avant de conclure. Le top 10 du classement mondial publié ce matin reste inchangé. Il est toujours dominé par l'Italien Yannick Sinner devant l'Allemand Alexander Zverev et l'Espagnol Carlos Alcaraz. Très bonne journée sur RFI.